Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Le 12. On commence ça net frais de sec. Le 12.
Ça part ici.
Bon midi à tous et à toutes. Bienvenue au 12 sur les zones de CFAQ 88.3 FM. Mon nom est Alexandre Leclerc. Je serai votre animateur aujourd'hui. Donc, programme un peu plus léger aujourd'hui. On va recevoir, comme à notre habitude, ben, en fait, on a déjà avec nous en studio Natacha Gay-Marchand du collectif qui va venir nous parler justement de quelques articles qui ont été publiés la semaine dernière, je crois, dans la dernière édition. Salut Natacha, ça va bien?
Ça va très bien, merci.
Bienvenue encore une fois à l'émission. Aujourd'hui, ben, quelques sujets quand même assez intéressants. On commence avec quelque chose qui me concerne, qui me parle quand même un peu. Quand j'avais vu la nouvelle, justement, je l'avais trouvé... Bon, je n'avais pas vraiment d'opinion, mais je trouvais ça quand même assez intéressant. C'est la génération Z qui souhaiterait moins de nudité à l'écran.
Oui, exactement. Dans le fond, il y a un sondage qui est sorti par l'Université de Californie qui disait que 51,5% des participants, des jeunes, donc qui ont interviewé 1500 jeunes entre 15 et 24 ans, puis dans le fond, 51,5% voulaient moins de contenu sexuel à l'écran, donc plus de contenu axé sur les relations platoniques et amicales.
Qu'est-ce qui explique ça, selon eux ou selon toi, peut-être?
Dans le fond, la conclusion de l'étude disait surtout que, oui, ils veulent moins de contenu axé sur la nudité, qui est surtout pas nécessaire à l'intrigue. 44,3% pensent que la romance est trop utilisée aussi, mais c'est surtout qu'ils veulent voir plus de diversité de relations à l'écran. Donc, de plus en plus de minorités, la communauté LGBTQ+, qui veulent voir du contenu différent. Donc, l'étude visait surtout à faire en sorte qu'on sache qu'est-ce que la génération Z veut et ce qu'elle veut pas, en fait.
Mm-hmm. Ça, c'est une étude menée aux États-Unis, c'est ça? Sur des jeunes américains, entre guillemets. Parce que je pense que les mœurs sont pas les mêmes nécessairement, par exemple, dans le cinéma européen, où là, je crois que c'est beaucoup plus... je vais dire libre, là, mais tu comprends ce que je veux dire, dans le sens, on n'a pas nécessairement la même moralité ou en tout cas ce même. Mais je trouve ça quand même intéressant parce qu'effectivement, on remarque, en tout cas moi qui regarde beaucoup de films ou beaucoup de séries, je remarque souvent effectivement que la nudité a l'air quasiment insérée là parce que c'est les vieilles mentalités qui veulent que s'il n'y a pas de nudité, le monde ne voudra pas regarder ça ou des trucs comme ça. Puis tu sais, souvent, elle est vraiment très accessoire ou très gratuite en fait.
Exactement, gratuit, c'est le mot utilisé dans l'enquête aussi. C'est plus facile peut-être pour Hollywood de créer des liens entre les personnages quand on passe directement à l'acte de la romance ou l'acte de la sexualité. Par contre, ce que les jeunes vont critiquer, c'est que justement, c'est trop facile d'utiliser ce passe-passe-là puis qu'il faut développer les relations d'un autre angle. Mm-hmm. Puis tu mentionnais aussi qu'il y a une différence entre les États-Unis puis l'Europe. On peut justement penser à l'exemple de la série Euphoria. Je ne sais pas si tu connais.
Ouais, ouais.
Mais c'est une série qui est très axée justement, dont l'intrigue utilise beaucoup les relations sexuelles. Et quand on le compare avec la série américaine, par exemple, de Stranger Things, ce que les jeunes ont beaucoup apprécié, c'est la relation de Steve et Robin, où est-ce que c'est une relation purement amicale. Puis on voit cette relation se développer au fur et à mesure de la série, puis on sait que ça va garder un lien strictement d'amitié.
Ouais, ouais, ouais. Je crois que, puis tu sais, aussi, c'est on va dire à l'ère du temps, là, mais tu sais, un post-MeToo aussi qui a quand même chamboulé beaucoup de choses dans le cinéma américain, mais même mondial. Il y a eu un resserrement, disons, là, des règlements sur les plateaux pour ce type de scène-là aussi, avec des, je me souviens plus, Intimity, en tout cas.
Qui est sorti après l'achat MeToo?
Ouais, c'est ça, mais tu sais, t'as des gens maintenant qui sont payés, en tout cas, pour, je me souviens plus de leur poste exactement, mais tu sais, c'est pour, on va dire...
Comme un poste à l'éthique.
Ouais, c'est ça, à l'éthique, mais pour les scènes sexuelles, justement, là, une espèce de... je me souviens plus comment ça s'appelle, mais en tout cas, on va dire un coordonnateur d'intimité, là, quelque chose comme ça. Là. Fait que tu sais, chaque acteur qui est impliqué dans une scène comme ça, ben, ça prend cette personne-là sur le plateau pour s'assurer que c'est un safe space ou des trucs comme ça. Là. Mais en tout cas,
c'est du changement positif.
Oui, c'est ça, c'est du changement positif. Puis je crois qu'il faut. C'est ça, quand c'est pas. Quand ça avance pas l'histoire, ben ça sert pas à grand chose. Puis je pense pas que ça. En tout cas, de mon point de vue de cinéphile, ça bonifie pas un film moyen là, que de mettre de la nudité. Oui. Là, fait que, mais il y a des films que c'est, mettons, Fifty Shades of Grey sans nudité ou sans sexualité, ben
le film
n'existe plus, là, vraiment. Fait que là où c'est primordial à l'intrigue, je suis pas nécessairement contre. Mais en tout cas, ça va être très intéressant parce que c'est cette génération-là, après ça, qui va consommer de ce cinéma-là puis qui va même le créer. Là. Fait que reste à... Je suis bien curieux de voir où est-ce que ça va aller, cette étude-là. On continue avec une réforme. On revient au Québec ici avec une réforme du système de la santé qui fait jaser.
En effet, le projet de loi 15... C'est la réforme du secteur de la santé qui a été propulsée par le ministère, dans le fond, le ministre Dubé. Puis, ce projet de loi, là, il fait beaucoup parler. Notamment, il y a 6 anciens premiers ministres qui ont fait une lettre ouverte à François Legault pour dire qu'ils s'y opposaient. Il y avait Pauline Marois, justement, là-dedans, Jean Charest, Philippe Couillard, qui disaient que c'était peut-être pas la meilleure solution pour réformer notre système de santé. C'est une réforme qui vise beaucoup la structure, alors que le gros problème en ce moment au Québec, c'est le manque de personnel.
Mm-hmm. Ouais, ça c'est une lettre des signataires qui ont tous et toutes, à leur époque, essayé de changer, de réformer le système de santé, puis qui n'y sont pas vraiment parvenus. Là. C'est une grosse bébite, vraiment, ce système-là. Puis le gouvernement Legault, là, en ce moment, il y a le public un peu sur le dos, tant au niveau des professeurs, tant au niveau là,
au niveau de la santé, de l'éducation.
Les anges gardiens.
Puis c'est quand même une grosse réforme, parce que là, ils veulent aussi abolir les CA. Les CA qu'il y a dans chaque région, puisque ce que ces anciens premiers ministres-là disaient, c'est qu'il ne faudrait pas abolir les CA, parce que dans chaque région, ils ont des spécificités qui font en sorte que ça permet de contribuer au rayonnement de la technologie, des avancements. Et donc, si on abolit les CA, on perd un peu ces avancements-là. Okay. Et la centralisation un peu trop forte viendrait avoir des conséquences négatives, notamment en créant une nouvelle société d'État qui serait Santé Québec. Ça serait très, très centralisateur. Donc, on peut comprendre les conséquences que ça aurait. On sait aussi que les ministères de la Santé, en ce moment, essayent de faire de leur mieux pour améliorer le système, mais il y a des questions à se poser sur les avenues à prendre.
Ouais, ces signataires, en tout cas ceux les plus grands critiques de ce projet de loi-là. Ben, est-ce que c'est une loi officiellement ou c'est juste un projet de loi?
C'est le projet de loi.
C'est un projet de loi. Est-ce qu'il amène des solutions, des pistes de. Ben, évidemment, de changer un peu l'optique vers.
Beaucoup de changements. Il y a 35 lois qui seraient changées avec. Si le projet de loi passe, ouais. Ça l'affecterait 35 lois en ce moment.
Ouais. Puis c'est ça. Donc, selon les principaux critiques, c'est ça. C'est pas la bonne solution pour contrer le problème en ce moment qui est la pénurie de main-d'œuvre.
Selon les 6 anciens ministres, oui, c'est ça.
À suivre. Je suis sûr qu'on va en parler beaucoup d'ici la fin de la session parlementaire, donc en décembre. Nouvelle internationale, on s'en va en Islande cette fois pour une grève de femmes.
Oui, exactement. Il y a des dizaines, des milliers de femmes qui sont descendues dans les rues ou qui sont restées chez elles le 24 octobre parce qu'ils réclamaient en fait une meilleure égalité des salaires et aussi ils critiquaient les violences qui sont faites envers les femmes, autant sexistes que sexuelles. Et donc, le concept visait à faire en sorte que les femmes, pour cette journée-là, ne fassent absolument rien, n'aillent pas travailler, ne fassent pas de ménage et ne s'occupent pas des tâches au foyer. Ils voulaient que les hommes, pour une fois, prennent conscience de tout le travail que font les femmes et ça en inclut aussi les tâches domestiques.
Mm-hmm. On devrait le faire sur une semaine, je pense, pour qu'on remarque. Ouais, c'est ça, pour qu'on remarque l'ampleur. Est-ce que c'est vraiment un mouvement qui part de l'Islande ou c'est un mouvement, on va dire, planétaire ou je sais pas?
C'est une bonne question. Je me demande dans quel pays c'est parti, mais on sait que l'Islande, c'est un des pays les plus égalitaires au monde en termes de genre. Donc, c'est quand même surprenant que ce pays-là prenne autant, que ce mouvement-là ait pris autant d'ampleur dans un pays qu'on considère déjà très égalitaire. C'est un bel exemple à prendre. C'est un exemple qui montre qu'il y a encore du chemin à faire, même dans les pays où c'est très égalitaire déjà.
Ouais, c'est ça. Parce que l'Islande, c'est ça, ça m'étonnait un peu en même temps, c'est comme on va dire, pas une micro-grève, là, mais c'est tellement un pays avec peu de population que peut-être que ça, c'est possible. T'sais, je ne sais pas si au Canada ou même au Québec, ça causerait pas mal d'enjeux que si les femmes avaient à faire une grève pendant une journée complète. Là.
Fait que, c'est une bonne réflexion à avoir. Je me demande si on arriverait à avoir autant de mobilisation ici au Canada.
Ouais, à voir. Puis, ben, on va terminer peut-être encore en nouvelle internationale avec du nouveau un peu dans le conflit israélo-palestinien, mais peut-être aussi la réponse du Canada face à ça.
Exactement. La réponse du Canada, en fait, on voit ces temps-ci que les pays internationaux, en fait, les pays occidentaux, les puissances internationales, sont appelés à intervenir dans le conflit. Donc, le Canada n'a pas voulu se positionner sur un cessez-le-feu entre le conflit israélo-palestinien. Il a plutôt préféré utiliser la formule de pause humanitaire. Et quand Mélanie Joly avait publié un tweet sur pause humanitaire au singulier, elle l'a supprimé, son tweet, puis elle l'a reposté en parlant de pause humanitaire au pluriel. Donc, ça montre qu'on n'est pas près d'un cessez-le-feu bientôt.
Ouais. Évidemment, là, c'est une situation qui évolue très rapidement. Là. Il y a beaucoup aussi, là, maintenant, outre, on va dire, l'espèce de blocus de nourriture, ou en tout cas, peu importe, là, maintenant, c'est l'Internet puis l'électricité. L'électricité, c'était déjà un peu là, mais le téléphone et tout, donc les bris de communication aussi, là, qui aident en rien la cause d'un côté comme de l'autre, là, évidemment. Non, c'est là,
tant qu'on n'a pas de carburant, parce que le blocus de carburant empêche l'électricité, empêche de faire fonctionner les hôpitaux, empêche d'avoir accès à de l'eau potable, donc c'est un gros, gros enjeu en ce moment.
Oui, puis on comprend le Canada de pas vouloir se mouiller d'un côté comme de l'autre, là, parce qu'il y a des débordements des deux côtés, fait que... vous pourrez retrouver tous ces articles dans
l'édition de cette semaine.
Ouais, c'est ça, l'édition de cette semaine. Donc, le prochain numéro sort lundi prochain. Donc, on pourra se jaser des nouveaux articles qui seront publiés. Natacha, merci beaucoup d'avoir pris le temps de me parler.
Merci à toi.
On s'en va en pause publicitaire et on revient dans quelques instants.